Bienvenue au Polysécur spécial Sécur. Je suis avec Andréane. Comment vas-tu?
Bien, toi?
Très bien aussi. Tu as présenté au Sécur. On fait un retour justement sur ta présentation. Rappel habituel, je ne parlerai pas de ta présentation elle-même parce que allez l'écouter. C'est encore disponible pour ceux qui ont chose ou vous pouvez encore acheter des billets pour visualiser à un coût vraiment très, très abordable si vous voulez voir la présentation elle-même. On va revenir sur les sujets puis on va poser des questions connexes justement pour enrichir cette présentation-là qui est essentiellement sur l'impact. En tout cas, à mon avis, l'importance de la recherche en cyber et le fait que celle-ci est peu présente. Donc, tu as essentiellement débunké deux nouvelles qui sont sorties justement pour les défaire un peu, puis de regarder avec des analyses que toi-même que tu as faites à ce niveau-là, de regarder pourquoi tes données quantitatives ne correspondaient pas aux conclusions de l'autre recherche. Pour en avoir parlé en privé à plusieurs reprises, c'est pas la première fois que cette situation-là t'arrive. Tu es confronté à ce genre de choses-là de ton œil de scientifique. Donc, puis première question par rapport à ce genre de choses-là. Puis pour moi, ce qui m'intéresse, puis parce que moi, j'ai comme une intuition qui me permet de détecter rapidement, mais comment on peut détecter rapidement quelque chose qui sent pas bon dans une espèce de dénoncé de cette nature-là pour nous aider justement à repérer ce genre de recherche qui est insuffisamment appuyé par des données?
Oui, bien, c'est une excellente question. Puis, il y a sûrement plusieurs façons de procéder. Je vais te donner de mon point de vue là, rapidement comme qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, si le titre de l'article, du blog ou de, tu sais, peu importe, de l'entrevue, peu importe, est alarmiste, mettons, là, tu sais, va être exagéré ou quelque chose comme ça, quelque chose qui paraît invraisemblable, ben dans la plupart des cas, en fait, c'est qu'ils se sont focusés sur un détail qui représentait pas vraiment bien le phénomène qu'on essayait de documenter adéquatement. Là. Donc, ça, déjà, quand on voit un titre alarmiste, peut-être déjà se poser la question de, bon, allons creuser un petit peu, voir de quoi qu'il parle là-dedans. La deuxième chose vraiment intimement reliée, là, ça va être comment ils ont fait pour en venir à cette conclusion-là. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme information pour arriver à cette conclusion-là? Donc, déjà, est-ce qu'ils ont des données ou c'est juste des claims comme ça qu'ils font à main levée? S'ils ont des données, est-ce qu'ils ont vraiment les données pour arriver à cette conclusion-là? Tu sais, j'en ai parlé un petit peu pendant ma conférence, mais si tu as des honeypot, puis que tu regardes qui les attaque, puis avec quel password ils utilisent pour les attaquer. Après ça, tu peux pas conclure que les gens, en général, quand ils mettent des mots de passe pour leur ordinateur, ils mettent des mots de passe poche. Ça n'a aucun lien un avec l'autre. Tu sais, t'as pas fait un survey sur les gens, sur les mots de passe des gens. T'as mis des honeypot, puis il y a des attaquants qui ont essayé de remplir. Donc, d'où sortent les données, s'il y en a? S'il n'y en a pas déjà, ça vous en dit beaucoup, mais d'où sortent les données, puis est-ce que c'est les bonnes données pour répondre à la question ou pour en arriver à cette conclusion-là? L'autre chose, c'est qui dit ça? C'est la notoriété un petit peu qu'il y a derrière. Ce n'est pas obligé d'être un chercheur qui a 40 ans d'expérience. Ce n'est pas ça, c'est juste, ça peut être juste des fois être la compagnie. Est-ce que la compagnie est vraiment spécialisée là-dedans? Est-ce qu'ils savent quelque chose à propos de ça ou est-ce qu'ils font juste pitcher des nouvelles qui font des clickbait finalement, tu sais. Donc ça aussi, c'est important. T'sais, est-ce qu'il y a des compétences derrière les gens qui vont communiquer cette information-là? Après ça, il y aurait d'autres choses. Ça serait, je pense, les plus gros, vraiment importants, qu'on peut vérifier quand même assez rapidement juste en screenant un peu l'information. Puis, tu sais, arrêtez de s'arrêter juste au titre aussi, là, tu sais. Allez lire l'article, plutôt.
Ouais, ben ça, dès que c'est repartagé un peu trop, ben généralement, c'est, puis moi, c'est un des défauts que je vois, c'est que les gens vont commenter sur le titre, puis on le voit beaucoup sur LinkedIn, c'est ces espèces de personnes qui pensent comprendre le sujet qu'en lisant le titre. Déjà là, en partant, c'est déjà pas bien parce que le titre n'est pas représentatif du contenu. L'exemple récent qu'on a de ça, c'est le botnet de brosse à dents qui est arrivé quand on a commencé. Puis heureusement, dans ce cas-ci, des journalistes qui ont commencé à creuser la question pour se rendre compte que c'était juste une idée lancée dans les airs comme ça, qui a été rattrapée par une publication. Et c'est parti comme ça. Du moment qu'on commence à analyser moindrement, le fait que c'était un botnet de brosse à dents, non, est-ce que ça se tenait de moins en moins, puis il fallait chercher à ce moment-là, mais avoir la patience, au moins de lire l'article ou lire plus que le résumé. Des fois, même le petit résumé qu'ils mettent en dessous est suffisant pour déjà contredire le titre. Puis souvent, en lisant un peu dans l'article, on voit rapidement que ce qui est dit, c'est pour faire que les gens lisent l'article et non pour déclarer une nouvelle spectaculaire que les brosses à dents vont nous attaquer. Cela étant dit, ça a fait d'excellentes images générées par du AI sur ça. Ça, c'est merveilleux. Mais ça amène le côté d'imagination qu'on a pu avoir, mais...
C'était vraiment un excellent exemple, celle-là. Puis, tu sais, c'est un exemple parmi un million. Là. Ça arrive comme à tous les jours là, qu'on tombe sur des... C'est sûr, tu sais, les journalistes, ils font leur job, puis eux, leur job, c'est d'être lus aussi. Là.
Mais ça c'est un peu triste parce qu'il n'y a plus de rigueur de recherche au niveau des journalistes. Ils se dépêchent à sortir la nouvelle au lieu de faire la contre-vérification de base. Puis à ce moment-ci, je pense que s'ils avaient parlé à un ou deux experts, on aurait vite fait de dire non, c'est pas tout à fait ça. Il y a une potentialité, effectivement. C'est un peu ce que l'article mentionne. Mais au-delà de la potentialité, ça arrête un peu à ce stade-là. Est-ce que c'est réaliste? Puis justement, on remet on superpose la présentation de Camille, justement, où c'est pendant le podcast qu'elle disait, quand tu pignes un bouton, ça peut le rendre inefficace. Fait que la brosse à dents, probablement, a le même quantité de processeur que le bouton. Fait que si on pingue la brosse à dents va peut-être juste arrêter de fonctionner.
Ouais,
on est peut-être dans le problème inverse où les gens n'auront plus de capables de brosser leurs dents et ils vont se retrouver très tristes.
Oui, ils vont être obligés de faire des mouvements de poignet comme avant. Ça va être vraiment triste.
Ça va être très fatigant de devoir bouger le poignet pour brosser ses dents correctement pendant le temps que, le temps que ça me demande. C'est tough la vie. J'aime bien la chose parce que c'est un bel exemple, puis ça en est un parmi d'autres aussi, justement, de choses qu'il faut chercher plus loin. La recherche est très importante. Puis on a aussi, pendant le podcast, parlé du Flipper Zero, qui est un autre exemple au Canadien, qui est dans ce cas-ci avec un élément. Je pense que pendant le podcast, quelqu'un avait confirmé que député avait cité que parmi les objets qui étaient pour faire ce genre de choses-là, il l'a nommé. Et pour une raison obscure, on a cristallisé là-dessus, ce qui est très étrange.
Ouais, ouais.
Mais en même temps, ça allait se baser sur aucune recherche, sur aucune donnée qui, dans ce cas-ci, aurait été probablement plus facile à faire parce que tu en as accès à un certain nombre de ces données-là. Puis justement, c'est ça qui est intéressant puis qui permettrait justement de peut-être tirer des conclusions un peu plus rapidement.
Oui, bien, exact. Ben, en fait, là, ça, c'est le problème du député qui a lancé aussi des noms d'outils dont il ne connaissait absolument pas l'utilité. Là. C'est certain que nous, on a focusé là-dessus. Ben, la communauté de la cybersécurité a focusé là-dessus. Parce que oui, c'est ça, ça n'avait pas rapport. Là. Il fallait mettre des noms d'outils connus, puis c'est ça que ça a donné. Mais tu sais, aussi, il ne faut pas trop capoter. On en a parlé pendant le podcast. Là, la loi n'est pas passée, là. C'est une personne qui a lancé ça. Mais par contre, il y avait un document écrit, puis il était à l'intérieur, là. Le Flipper Zero était à l'intérieur, mais quand même. C'est pas fait, là. Mais bon, c'est quand même bien de juste lever la main puis faire « oh, ça, peut-être que quand vous allez être rendu là, consultez les bonnes personnes, parce que franchement, vous êtes loin du but. » Mais où je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Donc, fait que là, quand on vérifie à cette personne-là qui pense que ça va régler le problème de juste bannir le Flipper Zero, mais il y a effectivement des meilleures données, en fait, des données scientifiques. Bien, là, pas encore, parce que les gens se sont lancés dans la recherche autour de ça, puis on attend, parce que je l'ai mentionné, la recherche, ça prend du temps, ça se fait pas en un clin d'œil. Mais par exemple, mettons, j'ai fait des demandes d'accès à l'information pour essayer d'aller identifier combien de véhicules volés peuvent être associés avec un genre d'outils technologiques de ce genre-là. Puis là, bon, dans les discussions préliminaires avec les spécialistes sur le terrain, ce qu'on entend, c'est que c'est une minuscule partie des vols de voitures qui sont faits. C'est minuscule, là, genre, c'est une exception finalement, là, que c'est pas comme ça qu'ils sont volés les voitures. Donc là, on va sortir les chiffres pour aller avec ça, aller avec ces claims-là, mais effectivement, il y a des façons d'aller vérifier ça. On va le faire avant que...
Oui, bien ça, c'est tout l'intérêt de ça. Mais ces données-là, sont-tu facilement accessibles ou il faut là, parler de demande d'accès à l'information? Fait que c'est quand même une étape assez lourde pour arriver à accéder à ce type d'information-là quand dans, dans un cas où, disons, si on suppose qu'il y a vraiment une urgence majeure à régler la situation, l'absence de données ne nous permet pas, en tout cas de façon large, parce qu'on a de la faute en huis clos, en personnes qui avaient des intérêts clairement alignés, de faire ce genre de choses-là, de l'ouvrir sur l'espace public. Moi, je suis beaucoup dans la discussion dans l'espace public, surtout pour la recherche notamment et d'autres choses, parce que ça permet l'émergence plus facilement de la vérité là, ou d'une forme de vérité. Là.
Mais non, ça se fera pas vraiment facilement. Mais tu sais, dans ce cas-ci, dans le cas d'une loi que le gouvernement voudrait passer, ce serait juste plus facile de parler avec des spécialistes qui savent comment ça fonctionne. Tu sais, là, déjà, on va dire, tu n'as pas besoin de données scientifiques nécessairement. Tu as juste à avoir 2-3 conversations, puis tu vas comprendre que l'enjeu, il n'est pas nécessairement là. Mais après ça, là, c'est ça. Tu sais, bon, ça fait que les experts s'occupent de ce bout-là. Moi, je vais m'occuper du bout scientifique pour avoir les preuves à côté. Mais effectivement, ça risque d'être très long. Là, tu sais, là, il a fallu que. Je demande à pas mal de gens de essayer que ça aille plus vite et tout, mais c'est dans les processus normaux, là, c'est excessivement long. Là, ça peut être des années, là, en fait. Là, fait que je ne vous arriverai pas avec une réponse immédiatement, mais j'y travaille.
Ben c'est parce que comme tu le mentionnais, c'est le problème de la recherche, pas nécessairement être rapide. Mais cela étant dit, disons, si les données étaient accessibles plus facilement, ou avec un certain, si on reprend un peu la façon qu'on avait sur le podcast, donc si les chercheurs en cyber étaient licenciés, puis donc avaient un accès plus rapide et plus adéquat à l'information, j'imagine qu'on aurait un certain gain au niveau de la vitesse des recherches?
Oui, mais là, tu sais, bon, c'est parce que c'est sûr, moi, je me suis concentrée sur les données policières. Okay? Fait qu'il y a sûrement d'autres façons de procéder. C'est juste que là, ben là, moi, cybersécurité, criminologie, c'est ça, je suis tout le temps rendue à cogner. Chez la police pour avoir leurs données. Mais les données policières, c'est plus touché. Là, je veux dire, ils vont pas. Puis c'est normal, là, tu veux pas que les dossiers soient nécessairement là, genre à la vue de tout le monde. C'est d'information publique, mais ils préfèrent vérifier les motivations. Mais quelle autre source de données est-ce qu'on pourrait avoir pour vérifier ça? T'sais? Les choses qui me viennent en tête sont tout aussi longues, là, comme par exemple aller questionner les méchants qui volent les voitures.
Oui, mais c'est drôle, là, mais c'est quand même valide aussi. Là, parce que,
mais oui, ça s'est fait là, dans le passé. Beaucoup d'études en criminologie se sont faites avec des questionnaires chez les criminels. Là, mais t'sais, les personnes là, sont prêtes à parler d'eux pendant des heures hein, si tu leur poses des questions. Fait que non, c'est pas. Mais tu sais, ça se fait, mais c'est ça. Là, ça aussi, là, c'est compliqué, puis c'est long, puis tu sais, bon, l'anonymisation, puis tout. Mais le vide comme ça, je vois pas. Mais, OK, il y a certainement. C'est parce que les raccourcis sont pas toujours bons. Ça dépend, ça dépend. Sur ce sujet-là, j'ai de la misère à voir comment qu'on va avoir des réponses, genre de données quantitatives, autres que là, ce qui me vient en tête, mais c'est normal. Là, j'ai mon biais aussi de criminologue là-dedans. Là. Mais mettons qu'on prend un autre exemple. Puis qu'on évoque des raccourcis, OK, tu sais, pour que ça soit moins long. Par exemple, des recherches comme on fait, que je fais avec Olivier Bilodeau là, chez GoSecure, sur les honeypots RDP, OK. On est en train de monter une énorme base de données en ce moment, OK. Puis la base de données, en fait, tu sais, on l'a montée, ça fait longtemps qu'il était collecté les données, mais là, tu sais, j'ai fait une base qui fait du sens pour qu'on puisse faire des analyses, mettons, en 2022. Tu sais, genre, je l'ai perfectionné en 2023. Mais là, je l'ai, là, la base. Là. Puis là, cette année, là, ben, je sors juste des recherches qui sont faites sur cette base de données-là. Fait qu'à un moment donné, il y a une partie du travail qui peut être fait. Puis les étapes suivantes, ils vont être vraiment plus rapides que la première fois, tu sais. Puis ça peut être un raccourci que je vois possible. S'il y a une collaboration entre les chercheurs de comme, ah, je te passe ma base de données, comme ça, tu vas pouvoir grinder d'autres choses, d'autres sujets que je n'ai pas abordés. Parce qu'avec une base, on s'entend, tu peux répondre à 20 000 questions. Tu n'as pas besoin d'avoir une nouvelle base de données à chaque fois. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour que ça soit moins long, la recherche, que ça ne prenne pas tout le temps, 3 ans, répondre à une question. Une question de recherche.
Oui, c'est un des problèmes. Puis moi, l'autre aspect, c'est que cette lenteur-là, relative, décourage probablement beaucoup d'investissements et beaucoup de recherches, justement, parce qu'il y a quand même, au bout de la recherche, un objectif quand même de visibilité ou de retour ou d'éléments comme ça qui restent assez. Code GoSecure, c'est sûr que, puis on en a déjà parlé, le lien est quand même assez clair entre vous êtes financé, il y a quand même un aspect marketing qui est associé à ça. moins flashy, puis pas dans l'objectif qu'on a vu dans les exemples que tu mentionnais, mais il reste quand même comme ça. Fait que, tu sais, le time to market est quand même, doit être quand même malgré tout assez rapide. Ça doit être un peu décourager les autres grands investisseurs en recherche justement de cette lenteur-là.
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup hein, d'investisseurs en tant que tels en recherche. Là, on peut voir GoSecure comme étant un investisseur en recherche puisque, on le rappelle, je ne fais pas de recherche sur les produits, je fais des recherches pures. Là, donc, il n'y a pas, là, j'ai pas de pression, j'ai pas de biais de, comme, oui, il faut que je produise la recherche, là, mais c'est pour ça que je suis payée. Fait que c'est normal qu'il y ait un output à la fin. Mais autrement, il n'y a pas de vite, le marketing, il faut sortir ça à propos de notre produit. Puis en fait, c'est le problème que beaucoup de compagnies qui ont des chercheurs ont. Je mets chercheurs entre guillemets parce que des fois, ce n'est pas toujours des vrais chercheurs. Là, c'est justement, c'est plus marketing ou recherche de produits, puis développement de leurs produits. Totalement différent. Là, à ce moment-là, tu as une pression de sortir. Ce n'est pas un vrai investissement en recherche, ça. Là, les vrais investissements en recherche sont faits du côté des universités ou du gouvernement qui donnent quand même de l'argent à la recherche. Là. Ils investissent pas mal en recherche. Mais autre que ça, c'est rare que tu vois des compagnies qui investissent vraiment. C'est comme du faux investissement normalement.
Ils font du R&D, mais pour le développement de leurs produits, pas dans la recherche, de la compréhension de l'écosystème, de la menace et tout ce que vous avez. Puis de toute façon, je le répète, j'aime beaucoup votre recherche parce que ça alimente beaucoup ma réflexion en tant que répondeur, aux incidents, parce que ça m'aide, ça contribue, fait qu'il y a une valeur très, très grande à ces données-là. Au niveau universitaire, est-ce qu'il y a du partage? Parce que tu parlais justement de l'accélération, c'est le partage. Est-ce que ces bases de données-là sont facilement d'accès au niveau universitaire où tout le monde garde son précieux puis tout le monde est chacun pour soi?
Ça dépend, là, t'sais, on est quand même greedy aussi dans le milieu académique parce que t'sais, la performance des professeurs est importante, là, t'sais, professeurs-chercheurs est importante. Là, tu veux être le prof reconnu dans ce domaine-là. T'sais, fait que là, quand tu as des données là, tellement précieuses, t'sais, tu vas les garder, tu vas faire tes recherches pendant une couple d'années. Par contre, tu vas probablement avoir une équipe qui va travailler là-dessus. Fait que déjà là, ça va plus vite. Là, tout le monde est affairé à travailler les données. Tu vas peut-être le partager avec genre 2-3 chercheurs. Puis là, vous allez milker la base de données, entre guillemets. Puis après ça, c'est pas rare qu'après quelques années, là, toi, tu passes à un autre projet ou peu importe. Puis là, tu vas rendre la base de données accessible. Puis là, ben, là, y a plein d'étudiants qui peuvent. Puis il y en a vraiment beaucoup des bases de données accessibles, là, des grosses affaires. Là, comme, puis là, après ça, c'est ça, plein d'étudiants qui peuvent piger dedans puis aller voir. Puis ça fait pas que c'est moins intéressant. Là, c'est sûr, c'est moins nouveau comme base, mais ça veut pas dire qu'elle a été toute déjà exploitée. Fait que oui, il y a du partage, mais je peux pas nier qu'il y a aussi beaucoup de greed là-dedans, mais ouais, le monde travaille tellement fort. Là,
c'est un peu le problème du milieu académique, c'est de réussir à faire un sens, puis comme c'est pas nécessairement des emplois qui sont très bien rémunérés, le seul élément qui en reste, c'est la gloire qui est associée à une recherche qui est spectaculaire, si on veut, et justement que notre nom est connu, on va chercher aussi un peu ces éléments-là, puis c'est l'incitatif, là, on t'en parlait aussi un peu pendant le podcast, c'est à qui ça profite et comment ça profite, ben, il faut toujours retracer un peu ces éléments-là.
Ouais, oui, c'est juste qu'ils n'ont pas, tu sais, il n'y a pas d'argent dans le processus du milieu académique. Mais oui, des fois, il y a de l'argent, il y a des gamins pareil, puis il y a de la politique, là, c'est clair. Okay? Sauf que ultimement, tu sais, c'est pas parce que le retour sur ton effort de travail n'est pas directement impacté par une somme d'argent au bout. Tu sais. C'est pas comme une entreprise qui va avoir du marketing suite à ça. Tu sais.
Il n'y a pas de bonus. Si tu as fait une bonne recherche, il n'y a pas de bonus associé.
Là. Absolument pas. Là. C'est juste, c'est toi, tu couches le soir et tu es fier d'être la sommité dans le domaine. Mais tu sais, faut que tu te nourrisses de ça plus que de ton argent, c'est clair.
Oui, effectivement. Mais en même temps, je trouve ça un peu dommage. Puis là, c'est parce que c'est dans le fond grâce à votre recherche que je suis mis encore plus en contact avec la recherche en cyber. Parce qu'avant, j'avais jamais été mis en contact parce qu'on n'en entend pas parler. Puis c'est pour ça que je pense. Puis les questions pendant la conférence, c'était comment on la trouve? Parce qu'elle est pas communiqué aux experts en ciment, en tout cas, clairement. En tout cas, moi, à l'époque, moi, je ne l'ai pas vu. Bon, je ne dirais pas communiqué aux experts. Là, je suis pas un corps représentatif de l'ensemble de la communauté, si on veut. Mais moi, je ne le vois pas. Puis j'ai été, puis c'est un bonheur d'ailleurs d'avoir entendu vos choses puis de me mettre ouvert sur cet élément-là. Puis je m'abreuve de ça aussi. Puis c'est là où je trouve qu'il y a un élément très important de retour aux professionnels, aux praticiens, parce que de ta recherche pour justement tout ce qui est du RDP dans ce cas-ci, ça m'aide à profiler ce que vous avez présenté au DEFCON pour Black Hat. Ça aide à profiler, moi, quand je vois un attaquant. Fait, je vais déjà être capable de le mettre dans une case, donc d'accélérer ma réponse à l'incident conséquemment, parce que en le mettant dans une case assez rapidement, au lieu de prendre 3 heures avant de choses, parce que c'est juste dans les 3 premières minutes, bien, je vais être capable de savoir, OK, bien, lui, c'est ça qu'il cherche. C'est comme ça qu'il opère. Donc, c'est sûr que ça crée un raccourci mental.
Ouais.
Quand tu es dans l'action, sont importants ces raccourcis-là parce qu'ils font la différence entre être capable d'arrêter rapidement ou pas. Mais en même temps, ce raccourci-là est basé sur des recherches,
ouais,
pas juste sur des anecdotes.
Oui, c'est ça, exact. Ben, je suis contente que tu me dises que c'est pertinent, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est clair qu'en cybersécurité, okay, quand on sort une recherche, il faut que tu t'attendes à la question « so what? » C'est comme « qu'est-ce que je fais moi maintenant avec cette information-là? » Puis ça me déstabilise à toutes les... Ben, pas que ça me déstabilise, je comprends qu'il faut... Faut donner des solutions. Je comprends que c'est ça que le monde a besoin. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça la différence entre le monde d'où je viens et le monde où je suis en ce moment. C'est que là, on veut la solution directe avec le résultat. Là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors que avant, dans le monde académique, ben, en ce moment dans le monde académique, mais avant où moi j'étais, c'est... Il y a le plaisir, ou en ce que moi j'appelle ça un plaisir, j'aime ça la recherche, mais de documenter sans nécessairement que j'aie une solution pour toi, tu comprends? T'sais? Là, mettons, je découvre des profils, OK? Puis là, tu sais, peut-être qu'en fait, toi, tu les vois pas directement, les profils. Ben là, tu me dis que oui, fait que ça m'encourage, tout ça. Mais même si, mettons que ça serait pas le cas, ou tu t'occupes une autre sorte d'emploi, puis t'es pas en incident response, ou tu sais, peu importe, est-ce que ça te sert directement? Peut-être pas. Par contre, la recherche, ça sert aussi à démarrer des discussions. C'est comme, moi, j'ai vu ça. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, vous, est-ce que vous vous envoyez? Est-ce que vous ajouteriez quelque chose à ça par rapport à votre expérience? Puis là, ça va me permettre d'aller plus loin dans ma recherche. T'sais, j'adore ça, présenter les résultats de recherche, parce qu'après ça, j'ai des questions. J'adore les questions. Puis là, je vois où est-ce que le focus des gens dans le milieu est. Puis là, ça me permet de faire de la recherche vraiment appliquée. Okay? Moi, j'ai toujours fait de la recherche appliquée. Mais la recherche en tant que telle, là, pas nécessairement toujours appliqué. Tu sais, des fois, c'est comprendre le phénomène. Puis, il n'y a pas une solution qui vient avec. Mais ça, là, eh boy, je pense que je ne survivrais pas longtemps en cybersécurité si je gardais mon vieil mon vieux cadre de comme, ah oui, mais c'est juste vraiment intéressant. Tu sais. Fait que, faut que je focus.
Ouais, ben, ça, je ne sais pas. Puis, dans le fond, c'est une question, parce que dans le fond, le but, c'est de la communication. Peu importe si c'est... Parce que moi, j'aime ça, je l'utilise un peu malheureusement, ce terme-là, puis je vois quelque chose d'intéressant, mais pas ouais, en cyber, c'est super intéressant, mais dans le fond, je viens de voir un acte criminel, mais juste parce que c'est pas l'acte criminel qui est intéressant, mais c'est la façon que ça a été utilisé, je trouve ça super intéressant parce que c'est indicateur des choses, puis ça va me servir plus tard. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis c'est votre capacité à communiquer, parce qu'au-delà de dire, OK, so what? Bien, so what, c'est que vous avez été capable de communiquer, puis c'est ça, là, je pense, la différence, puis une des valeurs très grandes à ce que vous faites, c'est qu'il y a une communication qui est faite. C'est peut-être pas pertinent pour tout le monde, effectivement, ça, je suis d'accord.
Ouais.
Mais la communication que vous en avez faite est probablement l'élément le plus important de la recherche que vous avez exécutée.
C'est sûr qu'il faut documenter ça, puis qu'on fait pas juste lancer ça. Puis aussi, moi, derrière, là, je fais beaucoup de travail qui paraît pas, mais je fais beaucoup de travail aussi pour faire que ces études-là soient documentées scientifiquement, là, genre dans des revues, genre révision par les pairs, tout ça, des revues scientifiques. Mais ça prend une éternité. Là, j'en ai une, tu sais, de publier jusqu'à maintenant. Là, depuis que je suis ici, là, depuis que je suis dans la cybersécurité. Mais tu sais, c'est ça. Donc, nous, on le communique, puis on les met partout, hein, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout ça. Tu sais, on veut que les gens voient qu'il y a de la recherche qui est faite dans ce domaine-là, pensent à nous s'ils veulent en savoir plus sur ce sujet-là. Mais tu sais, si un sujet qui nous intéresse, qui t'intéresse ou qui est pertinent pour une personne qui travaille, tu sais, il n'y a pas d'autre moyen que de juste aller voir sur Internet, tu sais, googler. T'sais, on peut pas s'attendre à, non plus à ce que toute l'information qui est pertinente pour nous nous tombe dessus.
Ah non, mais...
Pour aller chercher un bon choix, ce bout-là.
Je cherchais pas la magie, là. C'est pas le sens de ma question, là. Parce que, mais tu sais, je roule dans des conférences aux États-Unis puis en Europe, justement, pour aller être capable d'aller capter ces choses-là qui, une fois t'en entends, paraissent. Puis là, ben, là, une fois t'as trouvé un filon, là, tu restes collé dessus, là. Ouais. C'est très fun, un peu comme dans vos recherches. Pour moi, c'est un filon qui m'est intéressant, pertinent dans le cadre de mon travail, parce que ouais. Je suis capable de faire une application de ce que vous avez fait. Est-ce que tout le monde est capable? Probablement pas. Est-ce que... puis probablement qu'il y a des gens qui vont faire comme ça, what? Ça sert à quoi de mettre des barbares puis des rangers, puis ça sert à quoi? Mais peut-être, ça peut arriver. Mais moi, ça est arrivé, puis c'est intéressant. Puis c'est difficile à trouver, mais en même temps, je reviens, c'est la qualité de votre communication qui a fait que j'étais capable de l'attraper, le filon aussi.
Oui, mais ça, c'est dur à faire aussi, hein? C'est ça, il faut beaucoup d'expérience. Là. Puis tu sais, là, j'ai été chanceuse, moi, j'ai profité de l'expérience d'Olivier, qui ça fait 15 ans qu'il est dans le domaine, qu'il sait comment communiquer bien aux gens à qui vont trouver ça pertinent. Là. Mais ça, c'est difficile à faire. Puis c'est pas donné à tout le monde de communiquer. Parce que des informations, j'en ai plein. J'ai passé des années dans les chiffres, tu sais. Puis moi, je trouve ça intéressant, mes petits chiffres, là, mais bonne chance pour, tu sais, essayer d'illustrer ça, là. Tu sais, la plus claire de mon temps, c'est travailler à, genre, le communiquer bien, là. Fait que...
Oui, c'est ça. Puis j'ai des contre-exemples au dernier DEFCON que j'étais allé. Tu sais, il y avait plein de recherches qui étaient présentées, mais qui étaient tellement pas bien communiquées. Qu'on décroche. C'est-à-dire, c'est ça aussi, c'est ça qui est terrible pour le chercheur dans l'absolu, c'est que s'il ne communique pas bien, ben, ça se peut qu'il passe la qualité de sa recherche passe en dessous du radar et ne soit pas utilisé parce qu'il ne l'a pas bien communiqué.
Ah,
ça,
ouais.
je trouve ça un peu triste, mais je suis bien comme les autres, puis je m'endors puis j'arrête d'écouter parce que c'est trop sec pour moi. Là.
Ça doit être pour ça qu'on, tu sais, je viens de réaliser, ça doit être pour ça qu'on fait ça vraiment plate dans le milieu académique avec nos articles scientifiques, là, puis tout, là. Comme ça, pas besoin de bien communiquer, tout le monde est plate, c'est parfait. Comme ça, on est sûr d'apprendre à lire au complet le truc. Mais ouais, c'est vraiment difficile, ce bout-là. J'ai pas de truc, là. Je pense que je suis même pas
en train d'expérimenter. Je ne voulais pas un truc, mais je faisais juste souligner, puis justement, vous autres avez réussi à communiquer, puis vous n'êtes pas les seuls, heureusement, qui sachez communiquer l'état de vos recherches. J'assiste notamment au CAID et César en novembre en France, qui sont deux événements où des recherches financées et académiques sont présentées. Donc, c'est très intéressant de voir ces éléments-là, mais effectivement, peu savent communiquer les informations pertinentes. Puis ensuite, ça sert à ouvrir la conversation. Tu l'as dit toi-même, après, tu as parlé à plein de gens parce qu'ils vont justement faire du drill down. Mais comme tu as les données, bien là, on va être capable d'aller plus loin puis de communiquer. Là. Puis on a abondamment parlé ensemble aussi. Là. Fait que de ces conversations-là, j'ai challengé beaucoup de tes conclusions. Et des fois, tu corrigeais l'élément de communication qui était tout à fait un peu inexact pour justement le ramener dans le bon espace.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est de la science. Il faut que ça évolue. Il faut que ça soit vrai jusqu'à preuve du contraire. Puis il faut aussi qu'il faut être juste dans qu'est-ce qu'on communique. Puis des fois, ben oui, c'est sûr, là, mettons, ça sonnait clair dans ma tête, mais ça ne l'était pas pour les autres. Fait qu'il faut, tu sais, on vient corriger nos choses. Là. C'est sûr, c'est tout le temps ça. Là. Puis tu sais, des fois, je fais une présentation, puis je me dis, ah, il me semble qu'il y a moyen de mieux communiquer ça, tu sais. Puis là, je le rechange pour l'autre, pour la prochaine. Là. Fait que ça fait partie, tu sais. Faut surtout pas comme être un vieux professeur qui présente le même matériel depuis 20 ans. Anyway, on pourrait pas se le permettre en cyber, là, mais ça c'est bien dangereux, là, de vouloir juste se mettre tes petites pantoufles puis représenter ta même présentation. Il faut adapter au public que tu as devant toi aussi. Comme eux, ils ont besoin de recevoir des informations qui sont sûrement différentes de l'autre public que tu as fait avant. Fait que c'est sûr, faut s'adapter puis continuer d'évoluer puis de s'ajuster.
Ouais, je sais. Bref, pour faire quelques présentations de temps en temps, tu peux rarement réutiliser ton contenu parce que t'es rapidement plus à la bonne place.
Ouais.
Tu perds ta pertinence assez rapidement. Puis c'est un peu un peu odieux comme milieu pour ce genre de choses-là, à quel point on doit toujours être en train de courir sur notre tapis roulant, notre roue de hamster à essayer de rattraper toujours Toujours ce qu'il y en est. Là, je suis un peu dans une perspective d'accélérer les différents, la recherche ou aider à l'évolution. Est-ce que l'augmentation, je plaide pour le fait qu'une augmentation plus grande de recherche aiderait? Est-ce que ça serait un effet d'accélération sur la vitesse des recherches ou des conclusions qu'on pourrait, ou conclusions préliminaires, on s'entend, là, qui pourraient sortir des recherches?
Dans le fond,
ça en avait plus?
S'il y en avait plus, oui, c'est certain. Ouais. Oui, parce que si on était plus à travailler là-dessus, comme je te dis, il pourrait avoir un échange là, au niveau des bases de données, de comme, moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse, mais toi, c'est l'autre, on s'échange. Il y aurait plus d'informations là. Après ça aussi, on passerait moins de temps à faire nos devis de recherche, nos méthodologies, puis mettre le processus en place et tout. Si quelqu'un l'avait fait avant, puis me décrit comment il a fait, s'il a fait cette partie-là, moi, ça me sauve du temps. Je n'ai pas besoin de savoir exactement comment le honeypot a été, comme, et quelles raisons ils ont... Pourquoi ils ont fait ça de même, peu importe. Ça va jusqu'au nom du certificat, là, du certificat RDP qu'on met. Là. Mais c'est ça, oui, effectivement, s'il y en avait plus, ça irait à un moment donné vraiment plus vite. Là. Puis aussi, parce que justement, là, ça sert à quoi de faire une recherche qui a déjà été faite? En fait, là, on construit un par-dessus les autres pour essayer d'aller plus loin tout le temps. Sauf que là, on est pris, vu que c'est quand même émergent, là, la cybersécurité et la recherche en cybersécurité. Là. Donc, on est là à essayer juste de patcher un petit peu puis se faire une base rapidement, le plus vite possible, pendant que tout le monde éteint des feux, à place de genre construire un par-dessus l'autre. Donc, c'est ça. Ouais, oui, ça aide.
C'est pas parce qu'on éteint des feux qu'on est obligé, on peut pas travailler sur les problèmes de fond. Si on se disait ça, on n'aurait jamais créé des systèmes qui permettent de justement que les feux prennent moins souvent. Là, parce que c'est énormément de raison. On prend la chose d'un côté incendie, il y a eu quand même la recherche qui a été faite pour justement réduire, puis tout ça, ça s'est pas fait comme ça. Parce qu'on éteint des feux, on ne pensera pas à régler. Là. C'est un peu cet état d'esprit qu'il faudrait qu'on change aussi. Là.
Mais c'est un bon parallèle, ça, parce que, tu sais, la recherche sur comment on va éviter que le truc pogne en feu puis que le village pogne en feu au complet, il y a eu de la recherche sur les constructions, mais il y a eu de la recherche sur l'intervention aussi par rapport au feu, oui. Tu sais. Puis après ça, sur la responsabilité, puis tu sais, bon, tout ça. Fait qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut qu'ils soient développés, puis c'est impossible pour une personne de le faire. Tu sais, moi, je me concentre sur un aspect, bien là, oui, ça serait vraiment bénéfique s'il y avait plein d'autres chercheurs qui seraient en train de faire d'autres aspects en même temps.
Oui, c'est ça. Puis l'état de l'art de ce que les pompiers font est vraiment très, très, très sophistiqué maintenant par rapport à ce que c'était son remontement. Et ça ne s'est pas fait au hasard par improvisation. Il y a eu une recherche systématique qui a encadré puis qui a vérifié certains éléments puis qui a permis, parce qu'il y a beaucoup de physique, de chimie aussi, incidemment, en dessous de ces éléments-là qui viennent influencer la recherche. Puis moi, j'aime beaucoup les champs croisés. Puis est-ce qu'il y a un avantage? Il doit avoir un avantage à amener dans la recherche cyber, parce que oui, c'est nouveau, mais en même temps, non, c'est pas nouveau, parce que tu sais, on est des humains quand même là-dedans. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de révolution de l'humainerie dans cet univers-là. C'est qu'il y a des gains, j'imagine, à apporter d'autres corps de recherche existants sur lesquels on peut s'appuyer, j'imagine.
Ouais, ben effectivement. Là, c'est sûr que moi, ça va être en criminologie que je vais apporter toute ma vision dans la cyber, mais c'est pas tout. Il n'y a pas juste moi. Il n'y a pas juste ce domaine-là qui peut être appliqué. Puis de toute façon, bon, mes recherches sont vraiment très empreintes de psycho aussi, parce que c'est ça, ma spécialisation est au niveau psycho-criminaux. Mais il y a plein d'autres domaines qui peuvent être appliqués. On parle de genre ingénierie, par exemple, mais comme ingénierie était déjà là, l'ingénierie informatique, là, mais on peut quand même s'inspirer de bien des choses qui ont été faites dans d'autres types d'ingénierie. Mais là, je suis vraiment à brûle pour point. J'avais jamais réfléchi à cette question-là avant. Là, fait que j'ai pas comme une liste de domaines.
Non, mais c'est pas une liste. C'est juste, moi, tout se croise dans ma tête. Donc, c'est la façon que je vois le monde. Donc, c'est sûr que ces croisements-là, pour moi, sont importants. Là. Puis donc, t'apportes nécessairement, c'est ça, je vais valider. Puis tu confirmes que ça augmente la qualité des recherches. Là.
Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, tu réfléchis le problème autrement. C'est ça qui fait qu'on peut avancer plus rapidement, tout le monde ensemble, tu sais. ça va être de réfléchir autrement. Fait que là, bon, moi, j'arrive avec une équipe qui sait vraiment, tu sais, qui comprennent comment l'ordinateur fonctionne, comment les réseaux fonctionnent, comment que, bon, tout ça, l'infrastructure. Moi, j'ai aucune idée de tout ça, mais quand tu me parles, il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Donc, je pose des questions. Ouais, mais comment ça? Mais là, on n'avait pas pensé à ça. Fait qu'on va creuser. Fait que là, bon, tu sais, puis là, l'aspect, c'est ça, de l'humain derrière. Moi, je suis un petit peu plus intéressée par l'humain derrière le clavier de l'autre côté que du clavier en tant que tel, que de l'ordinateur en tant que tel. Fait que, ben oui, c'est sûr, c'est vraiment pertinent à tout joindre ça ensemble. Ça fait tellement des beaux résultats après, là, quand tu joins l'expertise de plusieurs personnes. Là, ben, je suis vraiment stimulée par ça là, dans le domaine. Ouais.
Très intéressant. Puis j'adore ça. De toute façon, moi, c'est comme ça que ma tête fonctionne. De toute façon, là, j'ai tellement de compétences superficielles en plein de choses, mais en même temps, tout ça se mélange. L'accès à la recherche, parce que là, tu sais, on en a parlé, on a fait un épisode qui était dédié justement au côté obscur de la recherche. C'est-à-dire, les gens ne sautaient pas dans ce domaine-là parce que ça a l'air sexy comme ça, parce que, genre, tu brandis une recherche, puis c'est le fun, il y a de la gloire associée. Il y avait une difficulté associée à ça. Comment on fait pour rentrer en recherche, au-delà du fait que le chemin classique, là, bref.
Oui, mais comment qu'on en fait ou comment qu'on en consomme?
Comment on arrive dans le champ de recherche? Disons un jour, je voudrais me tomber dans le champ de la recherche, ce qui est peu probable parce que je suis pas assez rigoureux au sens recherche pour être là-dedans, mais disons, à un moment donné, je vais faire ça. Comment je bascule dans l'univers de la recherche?
Oui, mais tu sais, mettons pour un professionnel, parce que là, on va parler de cyber parce qu'on est dans le domaine, hein, fait que, mais mettons, oui, quelqu'un en cyber qui aimerait ça faire de la recherche, tu sais, ça va être compliqué. Ben, ça va pas être compliqué, là, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que c'est. Mettons, pour être un chercheur en tant que tel, comme tel, faudrait avoir une formation de chercheur, en fait, tu sais, puis ça peut être dans n'importe quel domaine parce que la formation de chercheur va s'appliquer à 1000 affaires. Mais donc là, on parle d'études supérieures, là, donc. Maîtrise minimalement ou doc idéalement. Donc là, est-ce que vraiment mais ça serait tellement pertinent, ça serait tellement hot, quelqu'un que ça fait 15 ans qui est en cyber, qui fait juste retourner à l'école, faire une maîtrise puis un doc, tu sais. On n'a pas tant de cours là, aux études supérieures. C'est ça qui fait qu'on sort comme étant des chercheurs rigoureux, c'est qu'on fait de la recherche pendant tout ce temps-là. Là, t'sais. On est dans notre sujet, on perfectionne un sujet puis on apprend beaucoup à travers ça. Donc, si c'est ça, ça serait comme une possibilité, là, tu sais, on va faire des études et on est un vrai chercheur en sortant de là. Mais tu sais, sinon, il y a tellement peu de recherches ou de chercheurs en cybersécurité que ça ferait pas vraiment de tort. C'est pas moi qui va m'opposer à un chercheur qui a pas, mettons, de doctorat, là, tu sais. Ça va quand même être pertinent vu qu'on a besoin de main-d'œuvre, tu sais, on a besoin d'aide, là. Donc, pour quelqu'un qui se dit juste « moi, je veux faire de la recherche », mais déjà, avoir une position qui permet de le faire va être comme inévitable parce que faut toujours bien que tu manges. Donc, faut que
ça prend payé. Du temps à faire des recherches. Ça a l'air sexy comme ça, là, mais puis je pense qu'on a mentionné là, justement dans l'épisode sur le côté obscur de la recherche, c'est très long, là. Puis c'est d'analyser, c'est de cruncher des données. Tout le travail que tu as mis en arrière pour arriver aux conclusions que tu arrives, que tu présentes, c'est des longues heures d'analyse de données, puis de nettoyer tes données, les rendre utiles, travaillables, leur donner un sens, puis des échecs à travers ça aussi, probablement.
Tu as une
hypothèse, puis pouf, l'hypothèse, elle ne marche pas, puis là, tu recommences à zéro, là.
Exact. Mais tu sais qu'une hypothèse qui ne marche pas est un résultat de recherche en soi, sauf que c'est hautement moins intéressant à communiquer, puis c'est vraiment plate parce que tu es comme « Hey, j'ai cherché ça, puis j'ai rien trouvé. » Fait que c'est plate, mais ça arrive. Et il y en a de la recherche qui le font, là, puis je lève mon chapeau parce que faut quand même... T'sais, c'est plate, là, communiquer ça, mais ça arrive. Mais effectivement, quelqu'un qui voudrait faire ça, il faudrait qu'il s'attende à déjà trouver la position, mais après ça, une fois dans la position... À s'attendre à s'armer de patience, effectivement, comme tu le dis, tu sais, parce qu'il y a plusieurs étapes. Juste aller chercher les bonnes données ou avoir accès aux bonnes données, là, juste cette partie-là peut être tellement frustrante parce que, tu sais, c'est pas les données que tu voulais, c'est pas des données parfaites. Les données sont jamais parfaites. Ils vont toujours avoir des limites. Donc, tu sais, il faut que tu les acceptes, il faut que tu work avec ça. Il faut que tu travailles avec ça, avec les limites. Puis après ça, ben là, les analyses, des longues heures d'analyse qui mènent parfois nulle part ou d'autres fois qui mènent à des vraiment hautes conclusions que finalement tu t'attendais vraiment pas à trouver. C'est vrai, c'est ça, c'est le bout excitant, mais tu sais, pareil, c'est après plusieurs heures. Et après ça, t'as pas fini, là, parce que si tu gardes ça pour toi, ça a servi à rien. Fait que là, faut que tu te remettes sur la planche à travail puis t'essaies de trouver les meilleures façons de communiquer cette information-là. Ouais, c'est ça, de bien la structurer pour l'envoyer at large après ça. Ça aussi, c'est compliqué. Comment la séparer, bien choisir l'information qui est pertinente, non pertinente, tout ça. Parce qu'il y a des affaires qui te paraissent tellement pertinentes parce que t'as mis, mettons, 20 heures, 30 heures là-dessus sur un petit détail. Les autres, ils n'en ont rien à foutre de ce détail-là. Ça change rien à leur vie. T'sais. Fait que faut bien choisir l'info, puis c'est ça, savoir la communiquer, là, tu me disais tantôt. Là,
mais si on va à la recherche pure, c'est malgré que cette information n'est pas pertinente pour dont les praticiens dans le domaine, il demeure qu'entre chercheurs, ça va devenir pertinent parce que toi, comme autre chercheur, tu vas pouvoir t'appuyer sur son protocole de recherche, sa conclusion qui est intéressante en pratique et amener la recherche ailleurs.
Oui, mais souvent, là, tu as le goût de parler de qu'est-ce qui n'a pas marché, tu sais, puis là... Mais là, t'as pas assez de place, là, peu importe où que tu le communiques, même si c'est dans un article scientifique, tu sais, il faut que j'aille straight to the point, voici comment j'ai réussi à le faire, tu sais, les analyses, les outils, blablabla. Je peux pas écrire un article juste sur, genre, qu'est-ce que j'ai essayé qui a pas marché, parce que ça serait quand même intéressant, mais souvent, c'est ça, t'es mieux d'aller à qu'est-ce qui a marché direct que...
Ouais, ben le financement arrive de là aussi, là, c'est l'incitatif va avec ce genre de choses-là, mais je pense que vous documentez quand même les choses qui n'ont pas, sans les publier, vous quand même vous les documentez.
Ouais, ben c'est sûr que moi, j'ai des documents pour moi-même parce qu'après ça, moi, je me repose tout le temps des questions, là, tu sais, quand ça fait trop longtemps que j'ai pas travaillé sur un projet, là, je me dis, mais comment ça donc que j'avais choisi ça? Puis là, je vais voir mes notes, puis je suis comme, OK, je comprends, j'avais déjà fait toutes les analyses, puis j'étais arrivée à cette conclusion-là. Mais oui, c'est faut documenter, ne serait-ce que pour soi-même, pour les trucs qui ne marchent pas. Là. Mais ça m'arrive des fois, tu sais, comme en fait, un bout de la présentation que j'ai faite à Secure était tiré d'une affaire qu'on n'allait pas utiliser sinon, en fait. Tu sais, le bout de est-ce qu'on on compare deux protocoles de sécurité sur RDP, tu sais, c'est tellement niche, on n'a pas besoin, tu sais, il n'y a personne qui a besoin de savoir ça, à part peut-être des chercheurs. Ben en fait, après ça, j'ai essayé quand même de traduire l'information pour que ce soit utile à tout le monde, là, comme nous dans nos choix de mise en place de protocoles de sécurité. Mais quand même, au départ, là, c'était tellement inintéressant comme sujet. Mais nous, il fallait le savoir. Est-ce qu'on enlève nos on-potes avec du TLS seulement, avec du Transport Layer Security, puis on garde juste le Network Layer Security? Puis ça l'a répondu à toute ma recherche, elle a répondu à cette question-là, mais c'est une question qui n'était absolument pas pertinente pour les autres, qui l'était juste pour nous à ce moment-là. Finalement, tu as une sorte que j'ai fait un blog, puis une présentation, puis parce que j'ai réussi à trouver le bout qui était utile pour les autres personnes dedans.
Mais c'était utile pour vous autres aussi, là, c'est, ça part aussi de ces éléments-là, puis là, il y a un output intéressant qui est quand même... Qui en est sorti, là. Puis d'ailleurs, je suis en train de je brasse les idées, là, puis je trouve ça intéressant parce qu'en gestion d'incidents, on est souvent confronté à ce genre de situation-là. C'est à petite échelle, à très petite échelle, c'est un peu de la recherche où on a une masse de données, on doit faire du sens, mais dans des temps qui sont excessivement courts. Et c'est là, puis je reviens toujours, c'est la recherche me donne un raccourci pour être capable d'accélérer mon traitement. C'est-à-dire que toutes les heures que toi, tu as investi à chercher, oui, tous les autres chercheurs ont investi, vont m'aider à pouvoir conclure, ah, OK, c'est un tel type d'attaquant, il va utiliser telle méthode, il va faire probablement tel mouvement latéral, il va faire tel genre de choses, il va probablement, en deuxième étape, il va probablement aller là, fait que je vais être capable d'intervenir et d'éteindre le feu plus rapidement parce que je vais être capable de dire, OK, ben normalement, dans un édifice comme ça, il y a telle chose, il y a tel pattern, là, c'est ça, puis là, on va pouvoir prédire d'arriver à des données ou à des traitements différents de l'incident. Là. Je me répète souvent là-dessus parce que j'ai vraiment de la valeur est immense dans ce que je vois dans ma tête. Puis peut-être juste dans ma tête aussi que c'est comme ça.
J'espère pas.
En même temps, c'est la façon que je traite les incidents, c'est comment ouais. J'aborde. Puis c'est, en tout cas, bref, c'est là où je me trouve être efficace dans les premières heures d'intervention. Tu parlais, là on va basculer sur complètement d'autres choses. Tu as parlé de toxicité du milieu de la recherche. Parce que tu as parlé vaguement le fait que il y a comme tes papiers sont littéralement détruits par les autres chercheurs. C'est vraiment l'approche académique comme ça, donc ça fait très mal à l'ego. Tu as fait vaguement un peu la mention à la toxicité, puis là, je vais faire le parallèle au fait que le milieu de la cyber est encore à ce jour considéré comme étant assez toxique entre nous. Moi, je ne vois pas le jour où ça va se régler, malheureusement. J'ai hâte que ça se règle, cet élément de toxicité-là, qu'on puisse être plus collaboratif, ce qu'on n'est pas encore tout à fait, par des petits clusters, heureusement, mais de façon communautaire, on n'est pas encore rendu là. Est-ce que tous ces éléments-là, est-ce qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits de ce que ton vécu de chercheur pré-cyber à ce que tu commences à constater de la communauté cyber au Québec et à travers le monde?
Oui, mais je pense que j'ai pas la même expérience que toi dans le monde cyber pour plein de raisons, puis je vais te le dire, mais avant, je veux juste revenir sur le point que tu abordes sur la toxicité dans le milieu académique, juste pour que les gens comprennent à quoi je fais référence quand je disais ça. Parce que je disais que, tu sais, dans le fond, on est formé à faire... Bon, on fait de la recherche. Mettons, on écrit un article scientifique. Puis l'étape pour être publié, c'est que tu l'envoies à des reviewers qui sont anonymes. Je sais absolument pas c'est qui. Puis eux, ils vont essayer de trouver absolument toutes les failles qu'il y a dedans. Puis des fois, c'est des grosses failles. Des fois, c'est quand ils ne trouvent pas de grosses failles, ils vont s'attaquer aux mini-failles. Tu sais, comme ta phrase n'est pas bien construite. Puis tout ça.
C'est
des pages de commentaires là, de genre, c'est de la merde. Qu'est-ce que ça fait? Ça sonne vraiment comme ça quand tu le lis. T'es comme, mais voyons, ils l'ont tué. Ça te remet. C'est tout le temps une remise en question. C'est comme ça qu'est fait le milieu académique. Donc là, ça, c'est pour publier. Pour, mettons, au doctorat, mon examen 1, 2, 3, là, c'est tu montes ton projet, tu le présentes devant le jury, puis leur objectif, c'est de trouver toutes les failles dedans. Il n'y a pas, tu sais, je pense, je me suis jamais sentie, moi, attaquée personnellement dans ce processus-là. Tu sais, on n'a jamais dit que j'étais pas bonne ou peu importe. Non, on va trouver les failles dans la recherche. Donc, c'est sûr que quand je l'explique comme ça, ça a l'air genre « Oh my God, ça n'a pas de l'air fun ». Puis effectivement, mais c'est pas fait pour être fun, c'est fait pour être une épreuve. C'est ça qui fait que tu as un doctorat à la fin, c'est l'épreuve. Ouais, ouais. Mais c'est quand même fait dans le respect. Là, on reconnaît la bonne, tout ce que tu as fait de bon. Mais là, ici aujourd'hui, on est là pour trouver tout ce que tu aurais pu potentiellement faire de pas bon ou de meilleur dans un autre contexte. Puis ça, c'est vraiment une force d'être capable de, un, prendre la critique, puis deux, être capable d'expliquer pourquoi j'ai pas fait ça comme ça. Fait que c'est comme un passage obligé un petit peu là, pour former ton caractère ou tes performances en recherche. Il faut que tu sois capable de défendre ton point parce que c'est ça la science. T'sais. Donc, tu sais, oublie...
Je vais faire juste le défendre de façon rationnelle.
Oui, aussi, oui, pas parce que c'est le même c'est que
pas,
je feel.
Tu cries pas plus fort, tu fais juste de façon rationnelle.
Exactement, fait que ça t'apprend justement à pas crier, puis à trouver les raisons, en fait, donner des raisons qui vont avec, qui sont rationnelles. C'est bon, t'as raison. Donc, tu sais, oui, OK, c'est ça peut avoir l'air toxique.
Ouais, c'est parce que t'en as fait un clin d'œil comme ça dans ta présentation.
Oui, c'est moi qui ai dit ça, ça sortit de ma bouche.
C'est pour ça que je fais le lien, là.
Oui, non, je sais, mais c'est pour ça. Mais je reprends ce que j'ai dit moi-même parce qu'effectivement, ça sonne comme étant vraiment toxique. Puis tu sors de là, puis t'as le goût de pleurer, là, c'est sûr, là, tu sais, on t'a dit que t'étais comme que ton travail était poche. Mais tu sais, on remet tout le temps en question qu'est-ce que tu fais. Hey, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, là. Mais ultimement, tu sais, ça fait qu'on est capable de gérer la recherche, puis de faire la recherche rigoureuse à la fin. Donc, je ne sais pas trop où je me positionne par rapport à ça. Genre, est-ce vraiment toxique ou est-ce un passage obligé qui est justifié? Peut-être. En tout cas, bref, ça, je continuerai à y réfléchir dans le futur. Mais là, bon, cybersécurité maintenant, ça fait deux ans que je suis en cybersécurité. Mais moi, mon expérience, elle n'est pas tout à fait la même que toi, je pense, parce que je n'ai pas l'impression que c'est un milieu qui est si toxique que ça. Okay? Parce que moi, je suis tout le temps rendue dans les conférences. Ou je fais de la recherche ici à mon bureau. Ici, au bureau, aucun problème. Je suis entourée de gens qui veulent juste mon bien puis mon développement. Puis que je trouve tellement qu'ils me font shiner à toutes les fois qu'ils peuvent. Puis, tu sais, fait que moi, j'ai aucun problème au niveau de où est-ce que je travaille. Puis après ça, ben, je suis tout le temps rendue dans les conférences. J'ai tout le temps des places dans les conférences. Il y a tout le temps des gens pour m'écouter. Tu sais, je me sens absolument pas t'sais, rejetée à aucun niveau ou remise en question ou, tu sais... Ouais, qu'on ne me prend pas au sérieux ou qu'on ne pense pas que je fais mon travail comme il faut. Donc, ça va assez bien, moi, de ce côté-là. Puis aussi, ça, c'est mon expérience personnelle, mais aussi ce que je constate dans les conférences, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont là pour partager. Là, t'sais, tout le monde est là, puis ils veulent tellement t'expliquer. Là, puis tout le monde qui prend le temps de m'expliquer des choses, sachant que genre moi, ma base n'est pas en informatique, puis que je pars de loin, puis qu'ils prennent le temps. Puis moi, c'est ça, mon expérience. Mais aussi, là, ça, c'est mon biais de ma job, c'est d'aller dans les conférences. Fait que c'est sûr que le monde dans les conférences sont là pour partager. Fait que ça, c'est ma vision. Mais là, peut-être que toi, tu réfères à un monde où est-ce que je suis pas en relation avec ces gens-là. Je les vois jamais. Je sais pas son qui, parce que c'est ceux qui veulent moins partager ou moins...
De toute façon, c'est des archétypes aussi. Là, jusqu'à un certain point, puis tu en as sûrement croisé à un moment donné un autre, ces archétypes-là. Je parle largement du vieil homme blanc. Là. Moi, c'est la façon que mon épouvantail de cette toxicité, c'est le vieil homme blanc. Qui n'est pas juste un vieil homme blanc par ailleurs. Là. Il y en a de tout acabit de cette toxicité-là à travers l'environnement. Mais en même temps, puis ton explication, puis je trouve ça intéressant, c'est parce que tu as déjà été forgé à la recherche. Donc, incidemment, tu n'as pas l'épiderme sensible.
Ça, c'est vrai, par exemple. Ouais, ça, c'est un autre de mes biais.
Ça doit changer un peu la perception. Puis ça m'est apparu là, quand tu l'as expliqué, puis les deux mis un côte à côte, parce que si tu as été forgé à la recherche et justement de prendre tes autres, puis j'ai été dans une situation comme ça. Là, moi, j'ai été chez les comptables, puis tous tes papiers, tout ce que tu fais est révisé par trois paliers au-dessus de toi, puis ils ont toujours quelque chose à dire, ils sont jamais contents de ce que tu as fait. C'est inévitable. Fait que si tu bases ta qualité sur ça, tu verras pas loin. Fait que moi, j'ai été forgé, c'est un peu moins corsé que ce que tu peux faire en recherche, mais quand même, c'est un minima d'éléments comme ça. Fait que moi non plus, je le vis pas vraiment, ce degré de toxicité-là qui est mentionné. J'en suis témoin parce que je vois des vieux hommes blancs agir de façon incorrecte.
C'est partout, là. C'est pas juste en cyber, là. C'est pour ça que...
Non, c'est pas ça, mais on a eu probablement une époque, ça l'a amené une plus grande concentration, comme on a une plus grande concentration de neurodivergents aussi, parce qu'on est comme un aimant qui attire ce genre de choses-là. Puis je voulais aussi un peu voir ton rapport, puis parce que, en plus, c'est ça qui est intéressant, ça fait 2 ans, mais tu as des références qui sont de mon adolescence qui sont étonnantes. Fait que tu as comme un peu un hybride dans ces affaires-là. Fait que je trouve ça intéressant de voir ce regard-là de quelqu'un qui est nouveau dans le domaine, qui commence, qui est une femme, plus jeune que moi, puis que là, il arrive dans des choses comme ça, puis avec qui navigue de façon très bien. Puis ça me rend très heureux, cela étant dit, parce que ça donne espoir qu'on va... On va se débarrasser du stigma du vieil homme blanc. C'est mon objectif, notamment. Là. Mais oui,
il faut... Oui, non, mais là, faut préciser que, un, j'ai une baby face. Je suis peut-être un petit peu plus vieille que ce que les gens pensent. Mais il y a aussi que j'ai tout le temps été un peu nerd. Là, aussi, j'ai les mêmes référents parce qu'il y a du monde en ce moment. Parce que j'aimais les films, j'aimais les jeux vidéo, puis j'ai passé... Moi, j'avais pas de... Mes parents, ils avaient aucun problème à me laisser jouer aux jeux vidéo pendant que les autres jeunes jouaient dehors. Fait que je suis quand même dans le groupe, là, dans le fond, je me sens pas... Effectivement, c'est pas tout étranger pour moi. Donc. Ça doit être pour ça que j'ai été attirée vers le domaine.
Probablement aussi, là, mais bref, c'est ça. Puis ça, je vais comparer, voir ta perception de ça, parce que t'as justement ton exemple de toxicité, ce qu'on pourrait qualifier de toxicité du milieu académique. On le retrouve en cyber. La seule différence, pour moi, ce que je constate, c'est qu'on a tendance à être des prima donna, donc d'avoir une très grande sensibilité. On exige des autres plus que ce qu'on accepte soi-même comme critique, ce qui dans le milieu académique n'est pas... c'est donnant-donnant, là.
Ouais, c'est ça, exact, ouais. Ouais, c'est... Ouais, après ça, quand c'est toi qui review le truc, là, t'as le goût, toi aussi, de soulever toutes les failles, là. Fait que... Non, mais c'est fait probablement aussi plus gentiment que dans le passé, là.
C'est pas chargé. Là. Puis je le fais aussi là, dans travers tout ce que je fais comme travail. J'ai beaucoup de documents que je revise qui ont été produits par d'autres personnes que je commente. Puis là, justement, je suis froid dans mes commentaires parce que je suis sans émotion, parce que c'est vraiment juste ce que c'est. Et avec le temps, puis là, je reprends un de mes anciens collègues disait qu'il faut rajouter du minou sur le commentaire parce que le commentaire froid, sans émotion, fait probablement plus mal
ouais,
que juste une affaire du minou autour qui vient comme, ouais, mais qui passe même le même commentaire, la stratégie du sandwich, comme certains vont utiliser. Mais il faut mettre du minou. Puis ça, je trouve ça fascinant parce que moi, j'arrive de l'univers où c'est froid, c'est des commentaires. Je regarde. Fait comme, bah, effectivement, ouais, j'ai tourné les coins ronds là. Puis je suis capable d'admettre aussi jusqu'à un certain point les moments où j'ai pas été, disons, à la hauteur parce qu'on est des humains.
Ouais. Ben, tu sais, il y a quelque chose à. On a tous quelque chose à apprendre dans la communication aussi. Là, de, tout peut être adressé. Il faut juste trouver une façon de le faire.
Oui,
qui est adéquate.
C'est toujours mon chemin de vie. Mais à l'écrit, ça, j'ai appris à l'écrit, c'est pas si je suis trop froid à l'écrit. Je donne mes commentaires au verbal maintenant parce que ça passe. Ouais. J'ai une meilleure capacité de mettre du minou au verbal qu'à l'écrit.
C'est ça, c'est plus facile. Ouais. Faire moins de temps aussi, là, c'est long à écrire.
Oui, c'est très, très long à écrire puis de penser à comment les gens vont faire. Moi, j'ai pas mal fait le tour de par rapport à ce que représentait ta présentation au sens de la recherche, des choses comme ça. De toute façon, on a déjà abordé les sujets dans d'autres podcasts. Je ne veux pas trop répéter ce qu'on a déjà discuté non plus pour être trop redondant. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu penses qu'on devrait aborder que j'ai oublié?
C'est tout ce que c'est. J'ai donné tous les détails que tu sais, mettons, j'avais pas pensé donner pendant la présentation. Puis, tu sais, on a un peu répondu aux questions aussi qu'on a eues après la présentation. Fait que je suis quand même satisfaite avec ça. Puis, c'est toujours un plaisir de parler.
Plaisir partagé.